Sobriété, frugalité, la fin de l'abondance sont des mots à la mode. Avec mon invité, nous verrons, doit-on parler de frugalité ou de sobriété? Quelle différence? Quel est le terme qui correspond le mieux à la situation actuelle? Cette sobriété est présentée liée à la guerre en Ukraine, aux problèmes d'approvisionnement en gaz, pétrole et même uranium, qui est majoritairement importé de Russie. Mais de ce fait, on semble oublier le réchauffement climatique et l'obligation de moins consommer d'énergie fossile, de revoir nos modes de vie, le chauffage bien sûr, mais la climatisation, et surtout les modes de construction des bâtiments et aussi des villes pour limiter les déplacements. Une vraie réflexion sur l'urbanisme, arrêter de poser des blocs de béton, on parle maintenant de quartiers durables qui consomment donc moins. Parler de bâtiments durables et maintenant on parle de quartiers durables. La COP27 qui vient de se terminer, mon invitée Nathalie Lazaric, directrice de recherche au CNRS, que je vais laisser se présenter.
Bonsoir Michel. Donc je suis directrice de recherche au CNRS dans un laboratoire qui est pas très loin d'ici, donc qui s'appelle le GREDEG, groupe de recherche économie droit gestion. Je travaille plus particulièrement sur la transition écologique, les mesures d'adaptation face au changement climatique. Je suis économiste de formation, mais je travaille aussi beaucoup avec d'autres disciplines, en sciences sociales, en psychologie, en management. Et aussi avec les chimistes, les biologistes et en sciences d'agroécologie. Et mes sujets de réflexion et mes travaux portent beaucoup sur l'énergie, mais aussi sur le recyclage, les déchets, les nouveaux modes de transport et les nouveaux modes de production durable. Donc comment finalement arriver à s'adapter pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Alors, je proposais donc de commencer par la COP qui vient de se terminer. Bon, on n'explique plus ce que c'est qu'une COP. Je pense que nos auditeurs savent ce que c'est que cette grande messe annuelle. Ce que l'on ne dit pas quand on parle des COP, c'est que les choses importantes se passent en fait entre deux COP dans les négociations, État par État. Et que là, bon, après, c'est la grande messe, mais sinon, c'est plutôt dans les négociations avant. On part souvent de l'accord de Paris en 2015. Mais le seul engagement, c'est de maintenir le climat à 1,5 degré d'augmentation. Et ensuite, chaque pays propose sa feuille de route pour préserver ces 1,5 degré, maximum 10, 2. Les chercheurs disent qu'en fait, on a mis un 1,5 comme ça, là, sur la table, mais que finalement, 2 serait beaucoup plus raisonnable, comme on peut dire. Donc, on est sur cet objectif quand même.
Alors, en fin de compte, le problème, c'est comment de plus en plus de chercheurs savent que le défi impossible, c'est d'arriver à plus 1,5, ce qui était vraiment l'objectif initial de l'accord de Paris. Et à l'heure actuelle, on se rapprocherait du 2, voire même du 3%. Plus 3% d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est vraiment, ce serait super critique. Ça a été fait notamment dans récemment, dans une enquête qui a été faite de manière anonyme dans Nature fin 2021, qui a posé de manière anonyme des questions aux climatologues pour savoir, selon eux, quel serait le couloir, le corridor qui serait réaliste pour les enjeux à venir. Et ils annonçaient plus 3%. Donc on voit bien que c'est vraiment critique. Au-delà des chiffres, ce qui est vraiment très important et pour situer les enjeux de la COP27, ces fameuses Conference of Parties, qui regroupent plus de 197 États membres, ce qu'il faut voir, c'est que qui pollue et qui a envie, de vraiment travailler pour la réduction de cette pollution. Alors, qui pollue, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, on le sait, c'est la Chine, 31,6%. Les États-Unis, pour 13,8% quand même. Et puis, en deçà, l'Union européenne, 7,7%, et l'Inde. L'Inde, pour 7,5%. Alors, quand je vous donne ces chiffres, il faut bien voir que ça reflète aussi la diversité, mais aussi les inégalités environnementale, puisque la population n'est pas la même. Et si on rapporte ces quantités par rapport au nombre d'habitants, on voit bien que les États-Unis sont champions de toute catégorie, même si le train diminue pour l'Union européenne, mais on est vraiment leader, malheureusement, en émissions de gaz à effet de serre. Et je dirais, on essaie de travailler pour réduire. Alors, on essaie, c'est-à-dire que la France, par exemple...
On va voir quelques après. Mais du coup, là, c'était ceux qui polluent. Alors, il y a aussi la Chine, elle pollue pour nous. Il y a aussi ce calcul-là à faire, parce qu'elle pollue pour exporter et pour nos consommations. Donc, les experts évaluent aussi cette... Quand on critique la Chine, on peut dire oui, mais elle pollue pour nous.
En fin de compte, ce qui se passe, donc en 2022, il y a 40,6 milliards de tonnes de gaz à effet de serre qui sont émis. Donc c'est énorme, énorme. Et je dirais l'objectif, c'est vraiment, et c'est en hausse, alors ça c'est important de le dire, c'est en hausse par rapport à 2021. Alors, l'objectif dans cette COP27, c'est d'arriver à finalement, bien sûr, réduire ces quantités énormes, mais aussi désigner quels sont les responsables de ces émissions. Alors, la Chine est tout le temps vue comme vraiment le principal émetteur, mais par nombre d'habitants, on voit bien que c'est pas du tout c'est dans un cadre de moins de figure. Néanmoins, ce que l'on voit aussi, c'est que la Chine, comme beaucoup d'autres pays, continue à croître, en émissions de gaz à effet de serre par nombre d'habitants. Donc, ils sont normal, ils sont sur un train de croissance et donc ils ont besoin pour leur croissance et leur développement de plus de ressources. Et par ailleurs, c'est l'usine du monde, c'est aussi un extracteur de minéraux. Donc, ils travaillent aussi pour la transition écologique des pays européens, puisqu'ils travaillent pour la production des batteries électriques. Ils ont un monopole. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les batteries électriques, il n'y a que 5 pays, 5 firmes d'Asie qui ont 80% de la production des batteries. Donc du coup, évidemment qu'on externalise la pollution en faisant, travailler à plein de rendement la Chine, qui est l'usine du monde plus, qui réalise la production pour les énergies propres. Et par ailleurs, donc quand on regarde cette quantité de gaz à effet de serre, donc on n'internalise pas ces importations de pollution. Et ça, c'est un problème dans les calculs. Du coup, l'Europe et les États-Unis, plus une grande partie des pays du G20, travaillent pour finalement essayer de mettre en place une feuille de route pour financer les mesures d'adaptation dans les autres pays, puisque c'est un peu le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire qu'il finance les mesures d'adaptation et les principales solutions pour les autres pays. Et
alors justement, l'autre versant, oui. Il y a qui pollue, maintenant il y a qui subit, oui. Et qui subit, c'est essentiellement les pays du Sud. On a vu les inondations au Pakistan, tout ça. Et là, ça nous renvoie à la COP15 de Copenhague en 2009, où il avait été décidé un fonds vert de 100 milliards qui n'ont jamais été attribués et donc qui ne sont pas arrivés vraiment dans les pays du Sud. Je crois qu'on était à 80. Les pays du Sud ont obtenu que ce soit à l'ordre du jour de cette COP, alors que ça ne l'était pas. Par contre, ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, ce qui est prévu, c'est des prêts. Or, si on fait des prêts, on ne les aide pas vraiment parce qu'ils vont, effectivement, ils subissent le plus gros changement climatique et on les met en plus dans des dettes existantes. Donc, le problème, là, est quand même important. Et il n'y a pas cette volonté, enfin, on ne sent pas cette volonté des pays industriels, des pays du Nord, de participer réellement à l'aide des pays du Sud.
Alors là, en fin de compte, ce qui a été octroyé comme le budget des pays riches pour aider l'adaptation, c'est 100 milliards par an. La France a relevé un petit peu ses ambitions, puisqu'elle comptait mettre 5 milliards, elle en met un petit peu plus, 6 milliards. Bon, j'ai envie de dire, au-delà des chiffres, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que, il ne suffit pas de...
Qu'est-ce qu'on en fait ?
Ouais, qu'est-ce que l'on en qu'est-ce fait ? C'est vraiment le problème. Parce que croire que l'on pourra résoudre l'adaptation au changement climatique avec de la finance environnementale et de la technologie, c'est pas la bonne voie parce que on ne pourra pas tout faire. Les mesures d'adaptation sont énormes. Qu'on travaille sur à aligner des milliards, il y a des problèmes de biodiversité au concret qui sont pas résolus, les problèmes d'absorption par les forêts amazoniennes et autres, forêts en Afrique. Donc il y a la destruction des écosystèmes qui se fait et qui se fait parce que il y a toujours un besoin accru de plus en plus de matières premières. Donc ça c'est le problème de la sobriété, de la frugalité qu'on évoquait au tout début. C'est la sobriété, on réduit et puis la frugalité, on a plus d'ascétisme. Est-ce qu'on est capable finalement de se mettre autour d'une table et de décider d'une feuille de route pour aller vers plus de frugalité? Ça, c'est un changement culturel et les pays les plus riches sont pas prêts. Par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est qu'au sein de ces mêmes pays les plus riches, il y a des fortes inégalités au sein, des ménages, entre ceux qui polluent le plus et le moins. Et donc, du coup, les inégalités, on les retrouve entre les pays, et au sein même de ces pays. Et ça, c'est un enjeu majeur parce que tant qu'on n'aura pas résolu cette crise climatique et qu'on n'aura pas aussi, ne sera pas attaqué au problème des inégalités entre les pays et au sein des ménages, on n'y arrivera pas. On le voit bien, avec la COP27. La COP27, elle est emblématique de tout ce qui se passe, puisque c'est quand même un pays paradoxal où il y a, j'ai eu un changement politique, et c'est encore pire, en termes de liberté démocratique. Et par ailleurs, il faut quand même une COP27 en Afrique, parce que c'est quand même un pays important, mais il faut aussi arriver à résoudre ce problème de développement durable, développement humain et développement démocratique pour finalement que tout le monde puisse être porteur de solutions. Et le problème de la COP27, c'est qu'elle sort le chèque, c'est-à-dire la COP27, les riches sortent leur chéquier et offre des milliards pour des mesures d'adaptation, de la finance environnementale, et on pense résoudre la crise climatique comme ça. C'est pas comme ça qu'il va falloir. Il faut déjà que les pays riches balayent devant leurs portes, qu'ils fassent le ménage chez eux, et on voit bien que là, ils n'arrivent pas du tout à se mettre d'accord pour... On voit bien, par exemple, la France qui a été quand même leader pour la COP21, leader en termes de mesures très, des valeurs hautes, puisqu'il fallait rester en deçà de 2% et vers le 1,5, le plus 1,5% d'émissions de gaz à effet de serre. Dès 2020, le Haut Conseil pour le climat a dit que la France avait des ambitions démesurées par rapport à ce qu'elle affichait et qu'elle ne remplissait pas sa mission en termes de mesures d'adaptation au changement climatique. Donc, du coup, c'est vraiment un problème. Donc, il ne suffit pas d'avoir des ambitions, il faut les mettre en place. Et ensuite, il faut, pour les mettre en place, il faut démocratiquement, socialement, finalement, on arrive collectivement à mettre des solutions en œuvre. Et c'est là où le bât blesse.
Alors, est-ce que, parce que là, je pense que c'est depuis Copenhague, où on a dit « chacun fait ses propositions ».
Oui.
C'est à Copenhague, où d'ailleurs c'est sur proposition de la France. Moi j'en veux beaucoup à Sarkozy à ce moment-là, parce qu'il est arrivé, j'étais à Copenhague, il est arrivé, donc pendant une semaine on disait on avance, c'est bien, on progresse, et il est arrivé, il a dit on va laisser chaque pays faire ses propositions. Ce qui a été repris à la COP de Paris. Donc on a un 5, mais chacun fait ses propositions. Et les scientifiques disent que si on prend les propositions de tous les pays, on ne tiendra pas le respect de 1,5, ni même 2. Et la France, vous avez déjà signalé, ses engagements ne sont pas suffisants. Et d'ailleurs, elle a été condamnée pour non-respect des engagements. Alors c'est symbolique, parce que je pense que ça ne fait pas changer... Mais on voit déjà que même la France, qui se mettait en pointe donc en 2015, n'a pas une feuille de route. Et là, en 2023, il doit y avoir un point sur les feuilles de route. Donc on verra. Effectivement, les feuilles de route, c'est une COP encore plus importante, je crois, 2023, parce qu'on verra les feuilles de route et on doit, ce qui est prévu, faire le point par rapport à l'avancement de chaque pays par rapport à ce qu'il avait annoncé.
Oui, concrètement, en fin de compte, pour tenir le cap, il faudrait réduire des émissions de gaz à effet de serre en France de moins 3% par an. Donc là, moins 3%, on n'y est pas, hein, on est à moins 0,6% pour cette année. Donc du coup, on est loin du compte. Et là, ça va poser un problème, surtout que les ambitions de l'Europe sont très importantes, hein, puisque l'Europe compte réduire de moins 57% ses gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir un problème pour tenir ces objectifs. C'est pas le manque d'ambition, les ambitions sont là. Mais comment les mettre, les implémenter, ce que l'on appelle implémenter, c'est-à-dire les mettre en œuvre, les mettre en musique avec l'ensemble de l'accord des pays européens et de tous les objectifs ensemble pour aboutir à ce changement de cap.
Et pour rester sur la France encore un peu, la loi climat et résilience, dans laquelle on espérait beaucoup, a quand même beaucoup déçu. Et n'est pas à la hauteur non plus de cette réduction qui est indispensable.
Tout à fait, parce qu'en fin de compte, là, c'était un exemple de participation citoyenne. Hein, vraiment, on invitait à travers la Convention citoyenne à vraiment proposer des idées. Mais le souci, ça a été que ça a été sélectionné par le président de la République. On arrive à des mesures qui ne sont pas mauvaises, hein, l'éco-score, les mesures sur la réglementation des passoires thermiques. On arrive à un certain nombre de mesures, mais on manque un cap global, c'est-à-dire comment un changement structurel. On ne pourra pas aligner des mesurettes sans avoir une vision d'ensemble. Donc on a des bonnes idées, toutes ces idées sont bonnes, elles sont bien en deçà des préconisations des citoyens qui étaient vraiment beaucoup plus, réalistes. Ils étaient réalistes, ils ne proposaient pas la lune, ils proposaient donc, négociation avec les lobbies, passoires, etc., sélection, on arrive à un certain nombre de mesures, on ne va pas cracher dans la soupe, mais ces mesures, elles sont intéressantes. Hein. Par exemple, l'éco-score sur le textile, la vente en vrac, 20% dans les supermarchés.
Zéro artificialisation,
voilà.
qui est en train d'être remis un peu en cause parce qu'elle lobbie des collectivités territoriales derrière qui arrivent là.
Et même sur une petite mesure toute simple, hein, le menu végétarien hebdomadaire dans les cantines dès 2021, et ça pose un tollé. Donc, du coup, il faut bien voir qu'au-delà des mesures, il faut qu'il y ait un cap qui vienne d'en haut et d'en bas. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement d'en haut. Et ce changement culturel, il est difficile à mettre en place parce qu'on semble naviguer à vue sur la direction et l'adaptation à mettre en place.
Je voulais revenir sur l'Europe,
oui.
Avec le pacte, ce qu'on appelle le pacte vert européen, qui est ambitieux aussi, mais comment il se décline dans les pays ?
Alors oui, ce pacte vert européen qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, parce que, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'après le Covid, il y a eu 1 800 milliards d'euros, encore beaucoup de chiffres, qui ont été remis sur la table pour le fameux plan de relance. Et dans ces 1 800 milliards, il y en a un tiers qui doit financer le fonds vert, plus un tiers qui va dans le budget des pays européens, qui doit financer ce qu'on appelait le Green Deal. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça finançait beaucoup, les trajectoires technologiques, hein, la mobilité électrique, la rénovation énergétique, un tout petit peu, de mesures ont touché la précarité énergétique, mais très peu. Et puis, ça a été surtout, ce qui a été voté, ça a été le passage du tout électrique, puisque de là, on en a découlé une interdiction, j'irais, des voitures thermiques pour 2035. Donc, globalement, est-ce que, j'irais, c'est difficile pour l'instant d'évaluer vraiment l'impact réel de ce Green Deal, mais la coloration, c'est vraiment, on résoudra la crise par, j'irais, un soutien à l'innovation et à la R&D. Et donc, du coup, par des mesures, des nouvelles trajectoires technologiques ou renforcement un petit peu de ce qui est existant et le tout électrique. Et ça, c'est la fausse bonne idée parce que c'est pas avec simplement la technologie qu'on y arrivera. Et par exemple, quid, j'irais, de la transition agricole, hein. Ça, c'est un gros problème. Quid, j'irais, du bâtiment, le bâtiment qui est vraiment. Donc, certes, le transport émet énormément de gaz à effet de serre. Hein. En France, c'est 41% d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'est énorme. Dans les autres pays, c'est un peu moins, mais je dirais là, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas pour diversifier les possibilités d'expérimentation locale et citoyenne à travers le Green Deal.
D'accord. Alors, nous nous retrouvons après un peu de musique.
Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre à rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mauvais traits d'esprit. Serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Alors, nous nous retrouvons donc pour un alter regard avec Nathalie Zalazaric pour parler de frugalité, de sobriété, de fin de l'abondance. J'aime bien parce qu'on va y venir, mais pas forcément l'abondance. C'était pas l'abondance déjà pour tout le monde. Tout d'abord, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce morceau. Bon, on voit bien la relation avec la thématique, mais pas vous par rapport à. Voilà.
Oui, ce morceau de Fudge Chatterton, je l'aime beaucoup parce qu'il pose le problème, bah, qu'est-ce qu'on fait sans technologie? Et puis il aboutit à la question, mais finalement on se retrouve et il y a la solidarité qui émerge. Et donc je trouve que c'est une façon poétique de se dire, bon bah, on pense que sans Bluetooth, sans nos outils technologiques, on n'y arrivera pas, ça va être la crise, et puis on découvre d'autres valeurs. Et ça souligne un peu cette dimension entre sobriété et frugalité, c'est qu'il doit y avoir un changement culturel et ça doit aussi se faire dans nos têtes. Qu'est-ce que l'on fait? Quelles sont nos valeurs une fois que on est ébranlé en se disant c'est la fin de l'abondance, il va falloir réduire nos besoins d'énergie, revoir nos transports, comment le faire et comment implémenter ce changement au niveau individuel. Alors c'est sûr que c'est facile à dire. Après, il y a ce qu'on appelle la frugalité choisie et subie. Et ça, c'est pas du tout le même débat, puisque pour certains, ça va être un choix. Pour d'autres, ça va être une nécessité. Et j'ai envie de dire, ça va être une façon vitale de pouvoir faire avec les revenus qu'ils ont. Donc, ça reflète aussi bien ces inégalités de revenus, qui sont aussi le nerf de la guerre, hein, de cette fin de l'abondance. Fin de l'abondance pour qui? Pour qui et comment? Et comment le mettre en place?
Alors tout à fait, effectivement. On a insisté beaucoup dans plusieurs documents que j'ai lus sur la démocratie citoyenne, comment impliquer les citoyens, les faire adhérer. En fait, c'est vrai que c'est aussi un gros problème et ça rejoint les inégalités. Parce qu'on adhère en fonction de ses conditions de vie aussi.
Oui, et puis c'est vrai que, on est dans un monde où tout vient d'en haut. Tout vient d'en haut, et quand, l'État essaie de faire des concertations citoyennes, à la fin, il dit « Ah ben non, voilà simplement les mesures que je choisis et que je sélectionne parce qu'elles sont intéressantes à garder ». Donc du coup, c'est très frustrant. Par ailleurs, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a plein d'initiatives locales sur nos territoires et donc qui redonnent envie aussi d'expérimenter et de faire démocratie autour de l'écologie. Énormément de choses qui se passent. Donc c'est plus au niveau, des territoires, des communes, des communautés de citoyens que là peuvent se prendre des décisions et ça va faire pression sur les pouvoirs publics. Et c'est par exemple, c'était Ostrom, un prix Nobel, première femme qui a reçu le prix Nobel d'économie, qui disait, quand on lui parlait de ces petites communautés qui défendaient, le droit pour, le droit pour l'usage des eaux, de l'eau notamment, thème hautement d'actualité avec le changement climatique, et les économistes qui riaient et les politiciens qui disaient mais finalement pourquoi vous nous parlez de ces petites communautés, mais disaient mais est-ce que vous pensez sérieusement faire des mesures d'adaptation au changement climatique sans ces communautés, sérieusement? Donc et on voit bien ça c'est un enjeu majeur, c'est de participation démocratique au niveau des mesures d'adaptation et qui sont vraiment critiques. Et on l'a expérimenté tout cet été. Qu'est-ce qu'on a vu en France? On a vu les incendies, les problèmes de sécheresse dans le 06 et les problèmes de droit d'usage des eaux qui vont se poser et qui seront critiques. Il faut bien admettre que si on n'a pas une feuille de route claire avec des règles précises, ça va être le chacun pour soi et ça va être... Et ça risque d'engendrer des problèmes graves. Donc, à ce niveau-là, il faut qu'il y ait un changement de cap qui s'opère pour qu'on ait vraiment, qu'on sache un peu mieux les directions dans lesquelles on va.
Alors, vos travaux portent sur, je fais court, vous allez nous expliquer ça mieux, les économies d'énergie, en fait, et vous êtes allé sur le terrain concrètement, suivre des familles, si j'ai bien... Donc, vous pouvez nous expliquer ça, oui. Parce que c'est intéressant. C'est, ce type d'expérience était intéressante à reproduire aussi. Et à... Moi, il y a une expression qui m'énerve consciemment, c'est qu'on dit qu'il faut changer les comportements.
Oui.
Comme si on était des enfants et qu'on fasse n'importe quoi. Non, on a le comportement qui correspond à ce qu'on peut. Et donc, quand on parle d'économie d'énergie, c'est intéressant de prendre ça en compte aussi, sans doute.
Tout à fait. En fin de compte, ce qui est important, c'est par rapport au débat sobriété, frugalité, on ne décrète pas la sobriété énergétique, on l'apprend. On l'apprend et, réalisé des expériences pour essayer de voir comment les citoyens, qui étaient des citoyens volontaires, pouvaient apprendre à réduire leur consommation d'énergie. Et on a expérimenté dans, justement, à chaque fois qu'on a expérimenté, c'était dans des classes moyennes, sup, voire très aisées, notamment les expérimentations qu'on a fait à Monaco et sur Biote. Alors, en Biote, c'est beaucoup plus ancien, mais sur Monaco, les expériences les plus récentes que l'on a fait. Et là, comment on les a un petit peu challengés, on leur a dit, bon, ben voilà, donc il y a une expérience qui va se mettre en place, où on va observer, vos comportements, mais on ne va pas vous observer comme ça in vitro, on va finalement vous apprendre réduire votre consommation d'énergie. Alors comment ? Ben, on va vous envoyer des conseils très pratiques tous les 15 jours par email sur des conseils comment dégivrer votre frigo, comment le lavage à 30 degrés, donc des conseils très pratiques qui suivaient la saisonnalité, par exemple les éclairages LED, les labels, etc. Donc on apprend pendant 6 mois et on envoie des conseils finalement assez punchy pour que ce soit aussi intéressant. Nous, on a aussi beaucoup appris en envoyant ces conseils, donc chacun peut apprendre. Et donc, une fois qu'on a envoyé ces conseils, on va regarder et on avait fait plusieurs groupes. Un groupe avec un objectif de 25% de réduction de consommation d'énergie et un groupe avec 15%. Et on avait, comme dans toute expérience, un groupe de contrôle pour qui ne recevait aucun conseil. Et on a observé finalement les réductions les plus intéressantes, c'était dans le groupe qui avait un objectif de réduction de la consommation d'énergie raisonnable, moins 17%, enfin moins 15%, et eux, ils ont réduit de moins 17%, moins 27%, par rapport au groupe qui avait un objectif de moins 25% et qui, finalement, au départ, a énormément réduit et qui, finalement, après, a réduit de moins 20%. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fin de compte, quand je dis on ne décrète pas la sobriété énergétique, on l'apprend, c'est-à-dire qu'au bout de le temps d'expérience, on a observé on a travaillé avec ces volontaires pendant plus de 6 mois. On a obtenu leurs données de consommation avant et après pour faire vraiment une mesure qui puisse vraiment bien calibrer les changements opérés pendant la période de l'expérience. Et ce que l'on a observé vraiment, c'est que au départ, les économies d'énergie étaient faibles, mais qu'au bout de 2-3 mois, il y avait vraiment quelque chose qui s'opérait et l'apprentissage avait lieu. Et donc, du coup, les changements de comportement, c'est comment l'apprentissage se met en place pour finalement réaliser de réelles économies d'énergie qui vont durer dans le temps. Et on a après mesuré s'il n'y avait pas un effet rebond possible les mois d'après. Et donc, ce que l'on a appris aussi, c'est que lorsque l'objectif était trop ambitieux, on disait une injonction avec de réduction de moins 25%, il y avait un effet rebond qui était beaucoup plus vite. Donc, les volontaires se mettaient la pression et après relâchaient. Donc, quand l'objectif était raisonnable, moins 17%, moins 15%, ils allaient au-delà. Mmh. Et ils avaient réalisé les meilleurs résultats qu'on a obtenus en termes de réduction d'énergie. C'était dans le groupe qui avait une injonction de réduire sa consommation d'énergie de moins 15%. Et donc là, ils sont allés au-delà de leur objectif initial puisqu'ils ont réduit finalement de moins 27%. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que là, ils ont appris sans support technologique, finalement, juste par email. Donc ils ont appris, ils ont soutenu cet apprentissage. Et cet apprentissage, il est d'autant plus important que ce sont des classes aisées. Donc il y a une possibilité... Il y a une surconsommation, bien que les données de consommation d'énergie sur Monaco sont confidentielles. Mais néanmoins, ce que l'on sait, c'est que ce sont des classes aisées. Et dans ces classes aisées, où il y a de la surconsommation, il y a vraiment aussi un besoin Il y a un énorme besoin de réduire cette surconsommation pour arriver à une sobriété énergétique. Mais là, ça ne se décrète pas, ça s'apprend. Et il faut motiver, il faut donner un sens à cet apprentissage. Il faut le faire sur le long terme. Donc, pas de mesurette, pas une liste à la Prévert, mais un travail de longue envergure. Et ça, ça prend du temps, cet apprentissage culturel, mais ça a un effet durable. C'est les conditions, c'est le prix à payer de l'apprentissage. Et ça, c'est très important.
Accord à côté sur.
Parce qu'on voit maintenant fleurir des tas de conseils. Bon, que, en fait, l'autre qui ne va plus servir de son sèche-linge, bon, mais on, des trucs, alors que on a l'impression de culpabiliser presque, de dire, voyez, moi, je me sors plus de mon sèche-linge, quoi. L'autre, je mets un col roulé, alors que c'est pas comme ça, comme mon sens, qu'on aura l'adhésion des citoyens.
En fin de compte, ce qu'il faut voir...
L'impact prix aussi, est-ce que... Parce que là, on nous dit, ça va augmenter, donc comment on croise l'impact réchauffement climatique, c'est-à-dire la prise de conscience qu'il faut lutter contre les effets des émissions de gaz à effet de serre, et puis le prix qui va arriver, qui augmente.
Tout à fait. Non, mais le problème, je dirais, c'est, en fin de compte, la sobriété, c'est pour ceux qui consomment modérément, et plus que modérément. J'ai envie de dire, ceux qui, pour qui, je dirais, l'effet revenu est très important, ils sont déjà dans cette sobriété, et même dans cette précarité énergétique, hein, puisque la précarité énergétique, c'est vraiment quand même quelque chose d'énorme en France. Donc, d'énorme, et j'irais c'est une question très sensible qui n'est pas toujours prise en compte dans l'échiquier. Donc, la sobriété énergétique, ça va être pour ceux qui, finalement, ont une consommation moyenne ou une consommation bien plus que la moyenne. Et là, il faut vraiment... C'est un phénomène de solidarité énergétique pour que, finalement, on ne puisse pas trop dans les tensions du système, puisque, à l'heure actuelle aussi, ce qui fait qu'il y a des tensions sur le prix du kilowattheure et ce qui fait aussi que le prix de l'énergie flambe, c'est qu'une bonne partie des centrales sont à l'arrêt technique. Donc, du coup, ça crée des tensions et renchérissement du prix du kilowattheure. Par ailleurs, harmonisation et libéralisation du marché européen a facilité une harmonisation des prix et à la hausse pour le prix du kilowattheure
Le mode de calcul du prix de l'électricité que l'on dénonce là actuellement, d'ailleurs. C'est là-dessus qu'il faudrait revenir, quoi, aussi.
Oui, et en fin de compte, ce qu'il faudrait vraiment, c'est que c'est pas normal qu'il y ait de la précarité énergétique. C'est pas normal qu'en France, que l'on puisse pas, pouvoir dignement se chauffer sans trop consommer. Donc du coup, pour les ménages les plus défavorisés, il faut pas simplement donner un chèque énergie. C'est pas avec un petit chèque énergie qu'on couvrira l'ensemble des besoins énergétiques. Donc il faut vraiment s'attaquer à ce problème. Alors c'est vrai que la mesure de l'interdiction de louer les passoires énergétiques, c'est une bonne mesure, ça va dans le bon sens, mais il faut aller beaucoup plus loin et aller beaucoup plus vite dans la rénovation des logements, dans l'octroi des logements sociaux, et mettre la gomme là-dessus pour vraiment donner à nos citoyens des conditions de logement dignes et des conditions de chauffage dignes, puisque la base de la précarité énergétique, c'est le logement. Et c'est la pression, qui s'exerce quand c'est trop tendu pour payer son logement, mais du coup, on rogne sur l'énergie. Et pourquoi donc il faut s'attaquer. Ce problème de l'énergie, il est intimement lié à la décence des logements en France.
On a vu que sur le budget 2023, au contraire, le gouvernement a diminué l'enveloppe pour la rénovation. Donc ça, c'est vrai que...
Oui, c'est ça le problème de cap. Hein. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de décréter la sobriété énergétique, il faut être cohérent du début à la fin. Et ça, c'est la précarité énergétique, c'est l'angle mort de la politique actuelle. Dans la planification écologique qui avait été mise en place par Elisabeth Borne, ça passait entre les lignes. C'était évoqué, mais pas comme un problème central. Or, cette mesure-là montre bien que c'est encore toujours l'angle mort, cette précarité énergétique, parce que En fin de compte, j'irais s'attaquer aux problèmes de précarité énergétique, c'est s'attaquer aux inégalités de revenus et à la pauvreté en France. Donc du coup, pour le gouvernement, ça semble une tâche trop immense.
En fait, il y a deux volets. Il y a le logement, le bâtiment, disons, globalement, sur lequel on peut effectivement économiser. Et puis, il y a les déplacements. C'est les deux gros morceaux sur lesquels on peut économiser de l'énergie.
Oui, c'est les deux gros volets. Et c'est vrai que, par exemple, l'État qui, à l'heure actuelle, met le cap sur la mobilité électrique, pour s'attaquer à ce problème, c'est une fausse bonne solution. Pourquoi ? Parce que la voiture électrique, on le voit bien, la voiture électrique, elle va stigmatiser les différents types de ménages qui pourront pas, et va refléter aussi ces inégalités de revenus, même si on fait un chèque durable d'accession ou des prêts pour les ménages pour accéder à la voiture électrique. Et puis par ailleurs, croire que l'on pourra réduire durablement la crise du changement climatique par la voiture électrique, c'est vraiment une fausse bonne idée. Parce que, tout simplement, en amont, pour produire la voiture électrique, on émet deux fois plus de gaz à effet de serre. Donc, la voiture électrique, elle part déjà avec une dette carbone. Elle part déjà avec une dette carbone lourde pour, en amont, avant son utilisation, elle est, deux fois plus énergivore que la voiture thermique. À l'usage, on compense, mais à l'usage, il faut vraiment que ce soit une petite voiture électrique pour compenser à l'usage. Donc, du coup, il y a un ensemble de conditions qui font que, c'est qu'une petite partie de la solution. Par ailleurs, comme je vous ai dit, le problème de la voiture électrique, c'est qu'on externalise la pollution dans les pays où on extrait les matériaux, où on produit les batteries. Et là, puisque les batteries ne sont pas produites en France et les matériaux rares sont extraits en Asie. Donc, on externalise la voiture carbone, la voiture électrique part avec une dette de carbone. Par ailleurs, et ça c'est vraiment très important de le dire, attention à l'effet rebond. Alors ça c'est très important parce que qu'est-ce que l'on a vu ? À chaque fois qu'on a mis en place des politiques de transport tout électrique, on s'est aperçu par exemple, ça c'est en Norvège et en Suède, que les citoyens suédois et norvégiens s'étaient servis de la voiture électrique comme une voiture secondaire et avaient substitué cette voiture électrique au transport en commun. Donc finalement, c'est le contraire de ce que l'on s'attendait. Et donc, on a eu un effet rebond de 10 à 20% puisque cette voiture électrique remplace les transports publics. Donc, à chaque fois qu'il y a une technologie, et ça, c'est très important, à chaque fois qu'il y a une technologie qui se met en place, une innovation, quels sont les comportements pour éviter l'effet rebond ? Typiquement, dans l'énergie, on a le frigo américain qui illustre bien ce phénomène d'effet rebond, c'est-à-dire qu'on produit de plus en plus d'appareils électroménagers qui est plus efficiente au niveau énergétique, donc qui réduit l'empreinte carbone et qui réduit la consommation. Mais par ailleurs, on a des frigos qui sont deux fois plus puissants, donc du coup, qui consomment deux fois plus. Par ailleurs, à chaque fois qu'on achète un nouveau frigo, on garde l'ancien éventuellement au garage. Donc du coup, on multiplie les usages et là, on ne répond pas à la question de la sobriété ni de la frugalité. C'est-à-dire qu'on est dans toujours cette abondance. On a là toujours l'impression d'avoir une abondance tout en pensant faire une bonne chose. C'est-à-dire qu'on achète, on fait tout bien. On achète des appareils qui sont moins énergivores, mais on garde les anciens ou on achète des appareils qui sont plus puissants. Typiquement, le paradoxe pour la voiture électrique, c'est qu'on va acheter la SUV très puissante. Donc, du coup, c'est pas du tout la bonne solution. Et croire qu'on pourra résoudre la crise du changement climatique avec uniquement des solutions techniques et des innovations, c'est se leurrer. C'est un leurre. C'est tout simplement un leurre. Et il y a un changement culturel, comme je le disais, à mettre en œuvre. Et ce changement culturel, il peut se mettre en œuvre s'il y a aussi des exemples qui viennent d'en haut. Et j'irais, c'est pour ça que le gouvernement a aussi sa part de responsabilité. Quel est le modèle d'en haut qui insuffle? Il ne suffit pas de dire c'est la fin de l'abondance et on est dans la sobriété énergétique. Prouvez-nous vraiment que vous êtes dans cette fin de l'abondance. Quelles sont les mesures qui sont mises en place pour avoir une plus grande solidarité entre les citoyens, que ce ne soit pas les plus pauvres qui subissent les effets du renchérissement du prix de l'énergie et du problème d'augmentation des coûts de transport, hein, pour ceux qui sont obligés de prendre leur voiture au quotidien et qui n'ont pas trop le choix dans les zones rurales. Donc, quelles sont concrètement les mesures à prendre, sachant que ces mesures sont compliquées. Ces mesures sont compliquées pour les individus, pour les citoyens, pour les entreprises, les agriculteurs. Tout le monde est concerné, tous les secteurs.
C'est vrai qu'il y a aussi la place de l'agriculture. Et donc, j'ai deux. Il y a l'exemple, donc il y a la place des collectivités territoriales, c'est l'exemple le plus proche. On a beaucoup de débats actuellement sur faire des économies. On va éteindre les guirlandes de Noël une heure plus tôt. Enfin, c'est du symbolique, tout ça. Le citoyen, ça ne va pas lui dire ah ben oui, tiens, on fait vraiment un effort. J'ai pas l'impression que ça soit significatif.
C'est du symbolique, oui et non. Il faut bien commencer par quelque chose. Il faut bien commencer par quelque chose. Et par ailleurs, les communes, elles ont une obligation parce qu'elles ont vu leur facture énergétique gonfler de manière exponentielle. Donc, si elles ne sont pas préparées à réduire leurs dépenses énergétiques par passer systématiquement au LED, etc. Bon, il faut penser que, par exemple, les organisations et les communes, elles sont équipées qu'à 20% de LED, à 20 à 30%, donc les citoyens, 80%. Donc, du coup, il faut que tout le monde s'y mette et on va commencer par du symbolique, hein, et on va par réduire le temps d'éclairage, par limiter la publicité, etc. Il faut bien commencer par des petites mesures et aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut amorcer une réflexion collective et il faut collectivement que ce soit visible. Et donc finalement, l'éclairage, c'est pas si idiot que ça parce que ça permet, finalement, ça se voit. Parce que le problème de l'électricité, c'est qu'on consomme de l'électricité, mais elle n'est pas visible. L'éclairage, quand on l'éteint, on le voit. Donc, du coup, par des actions comme la publicité et l'éclairage, on commence à se dire, ah oui, il y a des réductions. Des actions très concrètes, mais qui doivent être concertées. Par exemple, les éclairages de Noël, il faut que ce soit concerté. Il faut qu'il y ait des débats pour que finalement, collectivement, tout le monde soit d'accord aussi. Il ne faut pas que ce soit subi et concerté. Donc, il faut qu'il y ait des mesures de concertation sur où on met le curseur, sur la publicité, sur l'éclairage, sur récupération des eaux de piscine, plein de mesures. Mais il faut faire participer ces citoyens. Il ne faut pas que les citoyens subissent ça. Il faut qu'ils soient inclus dans ces débats pour qu'ils les comprennent et qu'ils puissent aussi s'adapter et que ça prenne sens pour eux. Parce que finalement, sinon, c'est « finalement, je ne fais rien puisque ma ville ne le fait pas ». Et pourquoi c'est toujours le problème de, par exemple, typiquement les déchets. Hein. Si vous êtes dans une commune où les déchets sont mal collectés, vous, en tant que citoyen, vous n'êtes pas incité à le faire parce que vous dites « mais à quoi ça va servir ?» finalement mon effort individuel par rapport à la masse, puisque l'ensemble de la norme sociale est finalement à la baisse. Donc du coup, il faut bien commencer par quelque chose, il faut amorcer ces changements par des actions visibles et symboliques.
Donc, à côté de ça, on va mettre une piscine qui consomme, une patinoire, pardon, qui consomme en 15 jours.
Ah oui, c'est pas du tout cohérent.
Le citoyen, il s'en rend compte.
Ça, c'est pas du tout cohérent. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Il faut que ces choix soient concertés au niveau des communes, des citoyens, pour savoir jusqu'où on peut aller. Et comment y aller?
Il y a deux questions. Il y a la question. Alors, c'est Dominique Méda qui a écrit, vous devez connaître, que j'adore, sobriété et croissance. Comment on peut concilier cet objectif de toujours la croissance? Il faut augmenter le PIB, il faut de la croissance. Et puis, la sobriété. Donc là, effectivement, il y a une contradiction, moi, je dirais, mais comment on va motiver les citoyens à ce qu'il faut être sobre par rapport au changement climatique, c'est ça aussi, surtout. Mmh. Et puis, à côté de ça, dire, ah ben oui, zut, on a le PIB qui n'augmente pas, quoi.
Oui, ces injonctions permanentes, et c'est le choix fait entre sobriété, frugalité et décroissance. Alors évidemment, décroissance, ça apparaît comme le mot surtout à ne pas prononcer, hein. Emmanuel Macron a bien dit, on fait de la sobriété, mais surtout pas de la décroissance, mais... À un moment donné, il va falloir se poser la question, quelle croissance on veut, quelle croissance, comment partager les fruits de cette croissance. Et ça, c'est un débat sensible. Et puis, pourquoi pas sobriété et croissance, s'il y a une croissance beaucoup plus partagée et qu'on arrive à réduire les inégalités entre de revenus et à s'attaquer au problème de la pauvreté. Qu'est-ce qui crée de la frustration, finalement? Qu'est-ce qui crée de la colère? On voit bien, par exemple, la crise des Gilets jaunes a montré que quand il y a une mesure qui est prise, c'était une écotaxe, on taxait pour financer une nouvelle forme de mobilité. Ça a été totalement incompris parce que ça a paru totalement injuste, ça a été paru comme décrété. Donc il faut qu'il y ait à un moment donné des concertations autour des choix qui sont faits et des concertations dans les objectifs finaux. Et ça, c'est difficile à mettre en place, mais c'est pas impossible, puisqu'on voit bien que quand on fédère des gens autour de la concertation citoyenne du climat, ça soulève quand même un enthousiasme. Et après, qu'est-ce que l'on en fait de cet enthousiasme? Ça, qu'est-ce que l'on a fait? Et là, je dirais, il y a une responsabilité des pouvoirs publics. C'est pas le tout de faire l'émulation avec des mots. Qu'est-ce qui se, dans la pratique, qu'est-ce qui va être mis en place et retenu de tout ça? Donc ça, il y a beaucoup de frustration à ce niveau-là.
Accord à côté sûr.
Alors, par rapport à l'énergie, il faut laisser les énergies fossiles dans le sol, ça on le sait. Et on nous vante beaucoup l'hydrogène. Or, l'hydrogène, pour le moment, il consomme plus pour produire que ce qu'il ressort. On est sur le mythe qu'on pourra remplacer le gaz, le pétrole par l'hydrogène.
On est toujours dans le mythe prométhéen, schumpeterien. L'innovation technologique va permettre de résoudre toute la crise écologique. Mais c'est pas... et il faut trouver la technologie qui va résoudre le problème. La technologie ne résout pas tout tant qu'on ne s'attaque pas à la dimension sociale, comportementale et culturelle. On ne peut pas résoudre le problème. Typiquement, on met en place des phénomènes de rénovation énergétique. Et si on n'arrive pas à avoir une éducation, une forme de participation et de négociation pour réduire la température, les efforts sur la rénovation thermique, ils seront perdus. Donc c'est une négociation, une concertation, mais aussi un apprentissage. Et ça prend du temps parce que finalement, pendant longtemps, on a la France, l'Union européenne, les États-Unis ont vécu sur ce mythe de l'abondance. Et ce mythe de l'abondance, on n'a pas envie de le lâcher d'un point de vue culturel, c'est très rassurant. Or, ce mythe de l'abondance, il est mis à mal, il est remis à plat, et on a du mal à le lâcher. Et donc, on s'accroche tous à ce mythe de l'abondance parce que c'est un signe de distinction sociale, c'est un signe, de valorisation sociale, c'est un problème d'inégalité entre les ménages. L'abondance pour qui?
Alors, on arrive au terme de l'émission. Donc, quelques ressources complémentaires. Donc, on avait votre site, d'abord.
Oui, www.nathalielazaric.fr.
Le site de Négawatt, le dernier rapport, c'est justement sur la sobriété. Une enquête climat de la Fondation Jean Jaurès, que j'ai trouvée très intéressante parce qu'ils ont fait une enquête dans 30 pays européens. Et donc, on a là les 30 pays comparés, qui correspondent tout à fait à ce que vous avez développé. Donc, c'est Jérôme Fourquet qui a écrit « La transition écologique sera aussi une bataille culturelle ». Donc là, c'est tout un rapport sur, de Jérôme Fourquet qui correspond. Et pour rester dans les Alpes-Maritimes, c'est un appel de scientifiques qui ont lancé un appel donc, sur les Alpes-Maritimes avec une large concertation territoriale pour une transition énergétique solaire signifiante et cohérente dans les Alpes-Maritimes. Parce qu'effectivement, là, il y a les deux volets. Hein. Il y a le volet national où il faut prendre un certain nombre de mesures, mais il y a aussi la mobilisation locale. Et des livres ?
Oui, alors dans les livres sur l'énergie, hein, l'ouvrage d'Antoine de Ravignan, hein, le nucléaire stop ou encore, qui est tout à fait intéressant. Le dernier ouvrage d'Hervé Kampf sur le nucléaire, qui est tout à fait passionnant, comme à son habitude. Et puis, un ouvrage de mon collègue du GREDEC, de Damien Bazin, sur les éthiques environnementales et inégalités, qui est aussi tout à fait intéressant. Et je vous invite aussi à regarder de temps en temps le Twitter de mon laboratoire, du GREDEG, groupe de recherche économie, droit, gestion, où il y a des collègues qui sont à la COP27 et qui font part un peu des initiatives qui prennent en charge et des négociations qui ont lieu notamment en Tunisie et aussi au sein de l'Université Côte d'Azur. Merci Michel.
Merci, au revoir et on se retrouve le mois prochain pour un autre Alter Radio.